Dieu va agir parce que nous sommes dans une série extraordinaire. Nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ. Et vous savez, pour les croyants, la résurrection de Jésus, c'est la fondation de notre foi. La résurrection de Jésus, ça change tout. Ça change tout, ça change tout. Dis, regarde encore là, ton voisin, ta voisine, dis-lui, ça change tout. Dis-lui dans les yeux, ça change tout. En fait, parce que Jésus, lorsque Jésus est ressuscité, il a démontré qui il était. Et parce qu'il est ressuscité, il a démontré par cette action-là que tout ce qu'il a dit, c'était vrai. Parce qu'il avait annoncé qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Si on les compare à cette époque-là, qu'il y avait des enseignants, des faux prophètes, qui étaient, si Jésus n'avait pas ressuscité, il aurait été un prophète, un enseignant comme tous les autres. Il aurait pu être, hein, le fait qu'il est ressuscité, c'est qu'il a montré la puissance de Dieu et qu'il ne répondait pas à des messages de faux espoirs comme les menteurs, il y avait des menteurs et des imposteurs, mais il donnait, il enseignait un message d'espoir. Et c'est pour ça que Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17 à 19, dira: « Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie. Nous connaissons, nous servons, nous aimons un Dieu qui est vivant. Un Dieu, et j'aime tellement lorsque les femmes sont allées au tombeau. Est-ce qu'il y a des femmes ici dans ce lieu? Et les femmes, elles étaient les dernières à la croix. Elles ont été les premières au tombeau. Alléluia! Et lorsqu'elles sont arrivées au tombeau avec les aromates pour venir à juste embaumer le corps de Jésus, il y a un ange qui est arrivé, qui est apparu et a dit: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous avons le privilège de connaître un Jésus qui est encore vivant. Et parce qu'il est vivant, il change encore des choses aujourd'hui. Il peut tout changer. Parce qu'il est mort et ressuscité, nous pouvons avoir une vie en abondance. Parce qu'il est ressuscité, tu as accès à une vie abondante, ici-bas, mais aussi au ciel. » Et j'aimerais commencer par le ciel. Jean chapitre 11, versets 25 à 26, c'est Jésus qui dit: « Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et crois en moi, ne mourra jamais. » Si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, la Bible déclare que tu ne mourras jamais. Tu vas passer l'éternité avec Dieu. La résurrection, ça change tout. Comment tu vas vivre l'éternité? Dis à ton voisin, tu es assis à côté de quelqu'un immortel. Tu es assis à quelqu'un, à côté de quelqu'un qui est immortel. C'est ce que la Bible déclare. Je ne sais pas comment tu es entré dans ce lieu aujourd'hui, mais une chose est certaine. La Bible nous dit que nous sommes comme une vapeur, que notre vie est comme une vapeur. Sur l'échelle, pardon, du temps, votre vie est tellement courte. Et notre espérance comme croyant, c'est de savoir que je vais passer l'éternité dans le lieu où il n'y aura plus de larmes, dans le lieu où il n'y aura plus de peur, dans le lieu où il n'y aura plus de combat. Je pensais que Drummondville, vous alliez crier « Alléluia » dans le lieu où il n'y aura plus d'injustice, dans le lieu où ça va être la fête. On appelle ça les noces de l'agneau. Des noces, un mariage, c'est joyeux. Ça ne veut pas dire qu'on va passer l'éternité à jouer de la harpe sur un nuage, là. Absolument pas. C'est un lieu parfait et ça vaut la peine. Accroche-toi sur cette terre. Parce qu'un jour, tu vas rencontrer ton Dieu face à face et ça va être des moments extraordinaires. Amen. La résurrection, ça change comment tu vas passer l'éternité. Mais ça change comment tu vas vivre ta vie sur la terre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, ça dit, « Dans son grand amour, et c'est Dieu qui parle, dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. » Parce que Jésus est ressuscité, tu peux marcher sur cette terre avec de l'espérance, avec de l'espoir. Jean chapitre 10, verset 10, Jésus lui-même a dit, le voleur est venu pour tuer, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et que vous l'ayez en abondance. Ta vie sur terre, Christ est mort et ressuscité pour que tu aies accès à une vie abondante, une vie qui est en abondance. Et le mot « vie », c'est « zoé ». C'est bien plus que la vie, le battement de cœur, la vie physiologique. Dieu t'appelle, nous appelle à bien plus que métro, boulot, dodo. Dieu veut que tu aies accès à cette vie en abondance. Et peut-être que je vais te surprendre, mais en fait, la vie éternelle, c'est un état. C'est un cadeau que tu as reçu parce que Christ est mort et ressuscité. Et si tu ne l'as jamais fait, tu es peut-être ici pour une des premières fois, et peut-être que tu dis, je connais Jésus, mais je ne le connais pas personnellement. Je t'invite à peut-être après la réunion, aller à l'espace bienvenue. Mais si tu as donné ton cœur à Jésus, si tu lui as demandé pardon pour tes péchés, il est venu vivre en toi. Il est le sauveur de ta vie. Et la Bible nous dit que par ça, je vais passer l'éternité avec lui. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est acquis, c'est à toi. C'est un état. Mais la vie en abondance sur la terre dépend de tes choix. Je pense que vous aimez mieux la partie A. Et il y a un texte dans la Bible, dans Deutéronome, chapitre 30, versets 19 à 20, ça dit, « Je vous offre, c'est Dieu qui parle, hein, je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez. » Amen. Vous et vos descendants. Verset 20, « Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre. » Et il y a une autre portion, dans le verset 13 du même texte, va dire, « Je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien et la mort et le mal. » Il y a une notion de choix. Et la suite du texte, verset 11, plus tard, plus haut, il nous dit, « Ce commandement n'est certainement pas au-dessus de tes forces, et ce n'est pas hors de ta portée. » Ça veut dire que, mes amis, ce n'est pas hors de notre portée que de vivre, que de choisir cette vie en abondance. Et je vais emmener une nuance, parce que bien sûr, qui préfère vivre dans la bénédiction que dans la malédiction? On est d'accord. Et je veux juste, des fois, nous avons choisi la vie, mais nous pouvons vivre des fois des malédictions parce qu'on subit les choix de quelqu'un d'autre. Nous pouvons vivre des malédictions, bien que nous choisissons la vie, parce que Jésus l'a dit lui-même, que l'ennemi vient pour tuer, égorger et détruire. Mais à travers toutes ces situations, tu peux choisir la vie. Qu'est-ce que c'est? Stéphanie, tu me dis, « Ah oui, tout le monde veut la bénédiction, bien sûr. » Comment je peux concrètement choisir la vie? comment tu peux, au quotidien, dès demain, qu'est-ce que ça veut dire choisir la vie? Ça peut être, premièrement, de mettre Jésus en premier dans ta vie. Amen? De lui demander son aide, d'être avec toi, de mettre Jésus, le mettre en premier dans ta vie. Choisir la vie, ça peut être aussi de marcher selon les commandements de Dieu. C'est une façon de choisir la vie. Mais j'aimerais ce matin, dans le temps qui m'est alloué, te proposer deux aspects de ta vie très, très, très concrets. Comment tu peux choisir la vie? Amen. Vous êtes avec moi, Nouvelle Vie de Drummondville? Amen. Premier choix, comment je peux choisir la vie? J'ai dit, tu peux regarder à tes limitations ou tu peux regarder au potentiel que Dieu a mis en toi. Tes limitations peuvent t'empêcher de saisir la vie en abondance que Dieu a pour toi. Je fais une différence entre des limitations et des limites. Dans la vie, c'est important, c'est sain, S-A-I-N, de se mettre des limites. Par exemple, et ça, moi, si je l'avais su avant, probablement que je serais moins fatiguée aujourd'hui. Dites amen avec moi. Et des limites, par exemple, si ta famille, tes enfants, c'est ta priorité, tu vas dire à ton patron, je ne peux pas travailler plus que 12 heures par jour, j'ai mis une limite. On est d'accord? Donc, dans des aspects de notre vie, dans des relations au travail, on peut mettre des limites. Des limitations, c'est différent. Des limitations, c'est comme si on se mettait dans un cadre, dans une boîte. Et dans cette boîte-là, tu ne peux pas aller plus loin. Concrètement, je vais vous donner une illustration tirée de ma propre vie. Moi, je viens d'une famille, ma mère, elle est née 13e d'une famille de 13. Et à cette époque-là, sa mère lui disait, « Toi, 13e, t'es un accident, t'es pas désiré. Peut-être certains d'entre vous, on vous a dit ça dans votre jeunesse. J'imagine la pauvre mère après 13, tu comprends? » Mais elle n'était pas obligée d'y dire, on est d'accord? Et à cette époque-là, en plus, les femmes avaient moins accès à l'éducation, favorisaient plutôt les études chez les garçons que chez les filles. Et ma mère a souffert beaucoup de ça. Elle a eu des limitations. Et c'est pourquoi que toute ma jeunesse, du plus loin que je peux me souvenir, ma mère, elle était une source d'inspiration pour moi. Elle m'a dit, Stéphanie, moi, j'ai eu des limitations dans ma vie, mais moi, je veux que tu dépasses ces limitations-là. Je veux que tu ailles plus loin que moi, j'ai pu aller. Et elle m'a dit, tu es capable, tu peux faire de hautes études, va, et ainsi de suite. Et c'est cette femme-là qui m'a inspirée et qui m'a permis de foncer, d'oser, de saisir la vie en abondance que Dieu avait pour moi. Et c'est pour ça que j'ai fait mes études de doctorat et ainsi de suite. Et quand j'ai gradué et j'ai travaillé en pharmaceutique, c'était dans le domaine de l'urologie. Donc, les médecins qui travaillaient avec moi, c'était des hommes majoritairement. Et je n'ai jamais senti de limitation. Et c'est pour ça aussi qu'elle m'a inspirée encore aujourd'hui, parce qu'en 2000, quand j'ai laissé cette carrière-là, que j'ai fait mon collège biblique et je suis entrée dans le ministère, laissez-moi vous dire que pour les femmes qui prêchent, il y avait quelques limitations. Dis amen avec moi. Et en plus, je suis allée en France beaucoup et aussi dans ce beau pays qui avait beaucoup de limitations pour les femmes qui prêchent. Et si on trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'oratrices féminines en 2024, reculez, il a 24 ans. Et ça, c'est si je m'étais mis des limitations, il y en avait, ça m'a, je sais pas si tu saisis, je me serais pas emparée de la vie en abondance. Est-ce que tu as des limitations dans ta vie? Il y a des limitations qui sont externes. C'est-à-dire, peut-être que tu es assis ici, puis tu as eu une idée géniale, tu voudrais partir ton entreprise, mais tu te dis, je ne serai jamais capable, je n'ai pas de ressources, comment je vais faire ça? Peut-être c'est retourner à l'école, peut-être que c'est un rêve, peut-être, mais ce que tu veux à l'intérieur, est-ce que tu as une limitation? Et Dieu te dit aujourd'hui, ne regarde pas à ta limitation, mais regarde au potentiel que j'ai mis en toi. J'ai des projets de paix pour ta vie et non de malheur. Le ciel est notre limite parce que Dieu a des projets, une vie en abondance pour toi. Et ça, il y a des limitations qui sont externes et je dois vous avouer que ça, ma mère m'a aidée à les repousser. Mais il y a des limitations qui sont intérieures. Des limitations intérieures, et encore aujourd'hui, là, sur certaines limitations, je dois lutter encore avec Dieu. Je te donne un exemple concret. Qu'est-ce qu'une limitation intérieure? En fait, une limitation intérieure, des fois, on la regarde, on la défend et on l'excuse. Je pense que vous m'aimiez. Plus ça va, moins vous m'aimez, voyez-vous? Et en fait, une, genre exemple de limitation intérieure. Qui s'est inscrit à la salle de sport en janvier, au gym? Qui a lâché en cours de route? Moi, pendant maintenant, j'ai cette discipline-là, mais pendant des années, à chaque mois de janvier, j'avais les plus beaux running shoes pour aller m'entraîner, mais j'achetais tout le temps, tu vois. Et quand j'arrêtais, bien, je me disais, Stéphanie, comment tu veux faire du sport? T'es pas sportive. On n'est pas sportifs, nous autres, dans notre famille. Donc, ça justifie le fait que je lâche le gym. En fait, j'excuse, je défends, je justifie. OK, je pense qu'il y en a qui... Comment je peux... Tu arrives au bureau, il arrive une situation, et là, tu pètes une coche. Tu comprends? Je sais, dis à ton voisin, ta voisine, elle parle pas de toi. Toi, tu es trop spirituelle. Je parle, mettons, de quelqu'un en France. J'arrive de France. Donc, les Français sont râleurs, donc ils pètent des coches, tu vois? Pas nous, les Québécois, bien entendu. Et là, t'en pètes une pour de vrai. Et là, t'arrives et là, tu peux même... là, ouais, mais là, tu commences à justifier. Mais elle m'a cherché, elle, puis ci, puis ça, puis ça. Puis tu sais, Seigneur, nous, là, on est colérique dans notre famille de génération en génération. Ça, c'est accepter, voire même justifier une limite. Ça peut être même dans un mariage. Peut-être que tu as une façon de faire, tu ne sais pas comment donner de l'amour, c'est pas toi, les chocolats, les fleurs, ce n'est pas ton truc, tu sais. Et peu importe comment tu manifestes l'amour, mais tu sais, chérie, moi, je n'ai pas eu de modèle dans ma famille, donc je ne peux pas changer. Amen. Ça peut aller jusqu'à la toxicomanie, des dépendances. Nous, on a des problèmes de consommation de génération en génération. Et la vie est difficile. Et c'est vrai qu'il y a un facteur qui est génétique. Mais Dieu est plus grand que la génétique. Dieu est capable de briser les malédictions de génération en génération. Si tu choisis la vie et ce commandement-là n'est pas au-delà de tes forces, tu peux goûter, saisir à la vie abondante. Et comment je fais pour ne pas regarder, j'ai un choix. Je regarde au potentiel que Dieu a mis en moi. Si je pouvais m'arrêter un instant, et la Bible nous dit dans Philippiens qu'il nous appelle à être renouvelés dans notre esprit, dans notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Les paroles blessantes, les paroles, la génétique, le passé, c'est l'homme ancien. En Christ, toute chose peut devenir nouvelle. Et tout comportement, la vie, les choses qui sont dites sur ta vie peuvent changer. Parce que Christ est mort et ressuscité. Mais tu as un choix. Soit que tu regardes à ta limitation extérieure dans le rêve, le plan que Dieu a pour toi. Peut-être que tu regardes à tes limitations intérieures et tu les justifies. Mais comment on peut choisir la vie, c'est que regarde au potentiel que Dieu a mis en toi. Si je pouvais passer à travers les rangs et te dire, tu as du potentiel, tu as des dons, connais-tu tes dons, tes forces, et n'écoute pas les petites voix les mensonges de l'ennemi qui viennent t'écraser. Parce que Dieu a du potentiel, a mis du potentiel en toi. Si tu pouvais le saisir, choisir la vie au quotidien, c'est ça. C'est quand les limitations viennent dans ton esprit, tu dis non. Et je choisis de voir le potentiel de Dieu et le potentiel que Dieu a mis en moi. Il y a un scientifique qui s'appelle Thomas Edison. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire des sciences. Et j'étais frappée quand j'ai regardé un peu à son histoire. Thomas Edison, c'est un célèbre inventeur qui a marqué l'histoire des sciences. C'est lui qui a inventé l'ampoule électrique. Et il a dit une citation que j'ai beaucoup... Il y a une citation de lui qui m'a beaucoup impacté. Il a dit, beaucoup d'échecs dans la vie proviennent de gens qui n'ont pas réalisé à quel point ils étaient proches du succès lorsqu'ils ont abandonné. Des fois, tu es face à une situation que tu ne vois pas l'issue, tu abandonnes, tu ne sais pas comment. Et des fois, tu es à quelques millimètres, quelques petites décisions de passer à travers et d'avoir le succès. Et quand on regarde à la vie de Thomas Edison, saviez-vous qu'à l'âge de 8 ans, Thomas Edison a été expulsé de l'école? Et en fait, souvent, quand on regarde à l'histoire des grands génies, on voit souvent ça, des génies qui n'ont pas réussi à l'école. Donc, si tu n'as pas réussi à l'école, c'est peut-être parce que tu es un génie. Hein? Amen? Dis-toi ça, c'est peut-être juste que toi, tu es un génie comparativement aux autres. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Thomas. Thomas Edison, son enseignante l'a expulsé de la classe et lui a dit qu'il était stupide, brouillon et qu'il n'apprenait pas assez rapidement. Et ce qui est fou dans cette histoire-là, c'est que l'enseignante, lorsqu'il a quitté la classe, elle a remis à Thomas une lettre cachetée puis a dit « Thomas, tu donneras cette tête-là à ta maman quand tu arriveras à la maison. » Alors, imaginez les limitations déjà à 8 ans sur sa vie. Peut-être que t'es ici, tu as eu des mêmes limitations comme ça. Et Thomas arrive à la maison, il donne la lettre à sa maman et la mère a lu la lettre. En fait, elle a ouvert la lettre, elle a lu une version de ce qui était écrit sur la lettre. Et elle a lu à son fils, « Cher Thomas », en disant que le professeur avait écrit, « Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas assez de bons professeurs pour lui enseigner. Veuillez lui enseigner vous-même. » Et en fait, c'est la maman de Thomas Edison qui lui a fait l'école à la maison. Et cette femme-là a refusé les limitations que le professeur avait mis sur sa vie. Elle a refusé ces limitations qu'elle avait mis sur sa vie. Et plusieurs années plus tard, quand la maman est décédée, Thomas Edison a eu accès à la vraie lettre. Savez-vous ce qui était écrit sur la lettre? En fait, le professeur avait écrit « Votre fils est brouillon. Il pose trop de questions. On détecte qu'il y a une maladie mentale. Nous ne sommes pas d'accord qu'il revienne à l'école. » Cette femme-là a changé la lettre de la vie de Thomas Edison. Mais la meilleure nouvelle, si cette maman-là est capable de changer la lettre, Dieu, ton Père céleste, est capable aujourd'hui de changer la lettre de ta vie, que l'ennemi essaye de te dire que tu es limité, que tu n'as pas de potentiel. Que... Amen. Et Thomas Edison a écrit dans sa biographie, « Edison était un enfant pourri et stupide, mais grâce à une mère qui croyait en lui, il est devenu un génie. » Ce matin, saisis la parole pour toi. Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Mais tu as un choix entre regarder à tes limitations, excuser et les défendre, ou regarder au potentiel que Dieu a mis en toi. Vous êtes avec moi, Nouvelle Vie, Drummondville? J'ai dit comment se saisir de la vie en abondance, que l'éternité, c'est un état qu'on obtient grâce à Jésus-Christ mort et ressuscité, mais que cette vie en abondance dépend de nos choix. Choisis de regarder au potentiel. Le deuxième choix que je veux te proposer alors que j'arrive à la fin de ce message, tu peux choisir de regarder à tes obstacles ou tu peux choisir de regarder à celui qui ferait un chemin. Tu peux choisir de regarder à tes obstacles ou regarder à celui qui ferait un nouveau chemin. J'ai une grande révélation pour vous, si vous prenez des notes de Nouvelle Vie de Drummondville. Après des heures de jeûne et prière, je vais vous faire une grande prophétie. La vie est dure. C'est difficile, êtes-vous d'accord avec moi, de vivre. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des périodes difficiles. Mais si on est honnête, en ce moment, c'est assez difficile, merci. c'est sombre partout en Europe, les guerres en Israël, hier en Russie, les trucs, juste se loger. Moi, j'ai deux jeunes adultes, louer un appartement. Il y a des jeunes dans ce lieu, se louer un appartement, c'est extrêmement cher. La vie, c'est assez difficile. Et des fois, on est face à des obstacles. Et si tu mets ma diapositive, j'étais frappée par cette image-là parce que si on peut la mettre peut-être, la diapositive, sur le chemin de la vie. Tu peux vouloir choisir la vie, mais des fois, tu as l'impression d'être face à un gros rocher. Et des fois, ça peut être décourageant. On voit les défis, peut-être financiers, peut-être dans ta maison, dans ton mariage, dans tes enfants, et tu ne sais pas comment je vais surmonter ça, par quel chemin, comment je vais faire. Et même des fois, ça peut être tellement lourd qu'on peut se sentir écrasé sous le poids des fardeaux. Mais la prochaine, voilà. Il y avait un magazine Cro-Québec, ça va trahir mon âge. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, tu sais. Et en fait, pourquoi j'ai mis quelque chose de drôle? Parce que c'est vrai que des fois, t'es peut-être rentré ici aujourd'hui, puis tu portes sur tes épaules le poids de la vie, de ta maison. Peut-être que tu portes ton mariage, peut-être que tu sais ce que tu portes. Et saisir la vie, c'est pas toujours facile de dire, est-ce que je regarde à ce que je porte ou je regarde à celui qui ferait un nouveau chemin. Et des fois, c'est difficile parce que, tu sais, il y a un christianisme qui dit, on ne vit pas dans le déni. On n'est pas dans un monde de bisounours, de câlinours, de sucre d'orge, de licorne. Tu vois, il y a des vrais défis. Mais quand tu saisis la vie, c'est que tu fais un choix de regarder à Dieu qui peut faire toutes choses nouvelles. Dieu est encore le Dieu des miracle. Dieu est encore capable de guérir. Dieu est encore capable de restaurer des mariages. Dieu est encore capable de faire toutes choses nouvelles. Et il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup. Et parce que des fois, et c'est correct, on fait des plans, des stratégies. Quand on a eu des défis dans notre maison, on est allé chercher de l'aide, des spécialistes, et c'est correct. Mais des fois, on a essayé partout. Puis on ne sait plus par où aller. Et la bonne nouvelle, c'est que Proverbes chapitre 16, verset 9, ça dit « L'homme projette de suivre un chemin. » Et c'est correct, un chemin. Mais Dieu dirige ses pas. Sur le chemin de la vie, peut-être que tu es face à ce caillou-là, mais Dieu est encore capable de te guider d'une décision à une autre et t'emmener sur un chemin de vie abondant. Le psalmiste aussi a dit, psaume 121, je continue tout seul, c'est trop bon. Il a dit, psaume 121, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » Et c'est fou parce que moi, je l'ai lu souvent ce passage-là. C'est comme si il déclare tout de suite la réponse. Non, il se pose la question. Ce qu'il est en train de dire, quand je regarde à ma montagne, quand je regarde à mon gros caillou, à la roche qui est devant moi, d'où va venir le secours? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Peut-être tu es ici dans ce lieu et je prie et je sais que certaines personnes, parce que Dieu voit vos cœurs et tu dis, d'où va venir mon secours? C'est pas une exclamation, c'est une interrogation. Et je veux te rappeler que le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur, et je ne ferai pas la démonstration aujourd'hui, lorsque tu lèves les yeux vers le ciel et tu vois ces milliards d'étoiles et que tu sais qu'il y a des milliards de galaxies, que c'est créé à partir de rien, d'un Dieu Tout-Puissant, il est capable de frayer un nouveau chemin dans ta vie. Le peuple d'Israël, Dieu avait fait une promesse au peuple d'Israël. Il les emmenait dans une vie en abondance, la terre, le pays de bénédiction où coule le lait et le miel. Cette terre-là promise, une promesse. Mais le peuple d'Israël, la première chose qu'ils ont fait en sortant du pays d'Égypte, ils ont fait face à la mer Rouge. Et la mer s'est ouverte en deux. Pensez-vous que c'était habituel à cette époque-là? Nous, on lit ça comme ça. Ouais, ça s'est ouvert en deux. C'était exceptionnel. Si vous voyez le fleuve Saint-Laurent s'ouvrir en deux, vous allez voir que c'est exceptionnel. Ils ont vu un nouveau chemin. quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont eu faim. La manne est tombée du ciel. C'est pas Uber Eats là, qui est venu livrer, là. La manne est tombée du ciel. Est-ce que vous pensez que c'est exceptionnel? Ils ont eu soif. Moïse a pris un bâton, il a frappé le rocher. L'eau est sortie du rocher. Pensez-vous que c'était régulier, ça? C'était exceptionnel. Est-ce que vous croyez que la Bible est vraie? Est-ce que vous croyez que Dieu a changé? Hein? Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Mais il faut saisir la vie que si Dieu est capable de faire des nouveaux chemins exceptionnels, il peut faire des nouveaux chemins exceptionnels dans ta vie. Et ça, c'est une question de choix. Je peux choisir de regarder à la pierre. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus naturel. Mais je peux choisir encore aujourd'hui de croire que Dieu peut encore faire des choses exceptionnelles. Et ça, ce n'est pas une question de sentiment ou d'émotion. C'est une question de choix. Peut-être que je ne le sens pas aujourd'hui. 100 millions de fois, souvent, c'est bien rare que je sens. Je décide et je choisis de croire. Et peu importe sur le chemin de la vie, je fais confiance en son temps, dans sa souveraineté, qu'il va enlever ce caillou sur ma route et il va faire le miraculeux. Je choisis de le croire et de le déclarer parce qu'il est le Dieu tout-puissant, parce qu'il est le Dieu de la résurrection, parce qu'il est mort et ressuscité. Ce qu'il a promis, il a le pouvoir de l'accomplir. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Saisis-le pour ta vie aujourd'hui. Amen. Il ne change pas. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Ce qu'il a promis, il a le pouvoir de l'accomplir. Moi, ce que j'ai à faire, c'est de croire qu'il peut le faire. Amen. J'arrive de Paris. J'avais une conférence qui s'appelle Shine pour les femmes. Et à chaque année, en mars, il y a une conférence comme ça. Et l'année passée, j'étais là-bas. Et je me préparais pour amener la parole dans mon petit bureau à Montréal. J'écrivais mon message et j'avais le titre, tout était fait. Et la pensée qui est venue, et de plus en plus, moi, je suis une cartésienne. Ce que je vous déclare, je dois le mettre en pratique dans ma vie. Une scientifique croit que l'eau peut sortir d'un rocher, ça prend la foi. Êtes-vous d'accord avec moi? Non, je suis de la même nature que vous, là, vous me regardez. C'est pas plus facile pour moi, là, parce qu'on a un micro à la main. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux de plus en plus déclarer ta parole. Et tu dis que ta parole, elle s'accompagne de signes et de prodiges. Et je ne sais pas, mais quelqu'un est très occupé dans celui qui reçoit beaucoup de messages textes en ce moment. Est-ce que vous entendez un ding comme moi? Voilà, vous me rassurez, là, je ne suis pas en train de venir. Et je me dis, Seigneur, tu dois accompagner, s'il te plaît, ta parole par des signes et des prodiges. Parce que tu ne changes pas et je veux le déclarer. Et je recherche de plus en plus les dons de l'Esprit et les choses de l'Esprit, de toute façon très naturelle, juste parce que la Bible déclare. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant en vous. Alors, si cette puissance-là, elle est puissante, elle va guérir des cœurs, guérir des corps. Alors, je prépare mon message pour Shine là-bas, je reviens. Et le titre de mon message, c'était pour les femmes, Dieu. Bon, messieurs, ça ne vous parlera pas. Là. Donnez-nous 2 minutes entre femmes. Et c'était « Dieu veut vous faire enfanter ». Et bien sûr, tu sais, je parlais d'enfanter spirituellement. Et j'avais dit « Qui a 50 ans et plus dans ce lieu? Les femmes en ménopause, ha, ha, ha. » Et les femmes me disaient « Nous, on ne veut pas enfanter. » Bon, on a rigolé comme ça. Mais c'était « Dieu veut vous faire enfanter spirituellement ». Mais sur Montréal, la pensée avant de partir, c'était « Le Seigneur, il me disait, je veux que tu ailles plus loin. Je veux que tu dises que je veux faire enfanter des femmes stériles, des femmes infertiles. Dieu t'emmène avec moi. Sauf que moi, j'ai négocié avec Dieu. J'ai dit, moi, je veux bien être un canal. Mais Seigneur, je ne veux pas créer des déceptions. Vous savez, c'est facile comme orateur de dire des trucs « Wah, 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 wah! » Puis finalement, toi, tu retournes chez vous puis les personnes sont déçues. Amen. Et je dis, Seigneur, sur ta conviction, je vais le déclarer. Mais là, on est une team, là. Tu ne me laisses pas tomber. Alors, j'arrive à la conférence et à la fin, j'ose dire que Dieu veut guérir de l'infertilité des femmes. Et là, on prie pour les femmes, on impose les mains, toutes les... Bon. Et à la fin de la conférence, je suis montée dans les bureaux et il y a une amie qui est venue, elle m'a présenté son amie. Et cette femme-là, elle était en procréation médicale assistée. Elle faisait des fécondations in vitro et pendant plusieurs reprises, c'était des échecs. Elle a échoué, il restait un embryon. Vous voyez où je m'en viens? Un embryon, puis elle me dit, « Pasteur Stéphanie, qu'est-ce que je fais? J'ai tellement peur d'avoir de la peine que ça ne fonctionne pas, j'ai le goût d'abandonner. » J'ai dit, « Sur la parole de Dieu, va jusqu'au bout. Dieu est souverain. » Mais elle m'a dit, le médecin m'a dit, « Madame, ça vous prendrait un miracle parce que vous avez, ça a échoué, ça ne fonctionne pas du tout. » On a prié ensemble. Et quelques mois plus tard, vous voyez où je m'en viens, on m'a envoyé un petit message WhatsApp et on m'a dit que cette femme-là était enceinte, que l'embryon avait fonctionné. Et laissez-moi vous présenter, j'ai la photo. Est-ce que on peut montrer? Je vous présente Valentin. Regardez, c'est beau, Valentin. Et Valentin est né, si vous faites le calcul, elle aurait pu être guérie dans les 14 prochaines années, voyez-vous, non. Valentin est né le 9 janvier 2024. De mars à janvier, ça fait 9 mois. C'est-à-dire que quand on a prié, cette femme-là a été guérie. Et j'avais dit aux femmes lors de la conférence, si c'est une fille, vous tombez enceinte et c'est une fille, vous devez l'appeler Stéphanie. Et si c'est un gars, c'est Stéphane. Bon, Valentin, vous voyez que j'ai pas eu beaucoup d'impact. Mais j'ai dit aux filles, si Dieu vous guérit, que vous enfantez, écrivez-moi un témoignage pour moi aussi m'encourager, pour voir de l'eau sortir du rocher. Et, amen. Et quelques mois après, il y a une femme qui m'a écrit son témoignage et j'aimerais vous présenter maintenant Nora. Si tu mets la photo, Nora. Nora, cette femme-là, elle était à Chêne durant la conférence. Et Nora est née le 12 janvier 2024. Deux bébés. Ouais, moi, wow! Deux bébés Chêne. Et comme si c'était passé, comme si Dieu voulait me dire, je suis capable de frayer un nouveau chemin. Donc, de Nora, j'ai reçu un autre témoignage d'une femme qui était à la conférence. Et j'aimerais vous présenter Mia. Mia est née le 9 janvier 2024. Tu ne peux pas l'inventer, ça. Et comme si ce n'était pas assez. Il y a quelques temps de cela, je ne sais pas si vous écoutez MCI TV, maintenant je participe à une émission qui s'appelle « À table avec Annabelle ». C'est un podcast super agréable. On rigole beaucoup. Et j'ai dit aux filles sur la table, les chroniqueuses, j'ai dit « Hey, on est à la Chêne l'année passée, on a 3 bébés Chêne miraculeux ». Et dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu un email. Et c'est un objet, c'était marqué « Rectification des bébés Chêne ». Et c'est une femme qui m'a écrit qu'elle et sa belle-sœur étaient à la conférence l'année passée et qu'elles ont prié. Les deux n'étaient pas capables d'avoir des enfants. Une d'entre elles perdait toujours les bébés avec des segments. Et qu'à la conférence, elles ont prié, pas de grand, une avec l'autre, comme ça. Et elles ont tombé enceintes cette année aussi. Et elle tombait enceinte, elle a eu des pertes de sang, parce qu'elle s'est dit, « Oh non, ça va être encore comme ça. » Elle dit, « Seigneur, je veux te faire confiance. » Et nous sommes maintenant à 5 bébés Chêne miraculeux. Alléluia! Dieu est le Dieu des miracles encore aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous lever là où vous êtes? J'aimerais juste conclure ce message. Vous avez été extraordinaire. C'est un pur bonheur de vous apporter la parole. Mais je ne voudrais pas retourner dans mon grand Sainte-Julie sans avoir pris le temps de prier pour toi. Tu as le choix aujourd'hui entre la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Peut-être que je vais juste demander de fermer les yeux alors que peut-être que je prie que le Saint-Esprit puisse parler à ton cœur. Et peut-être venir juste souffler dans ton esprit quelque chose. Peut-être que tu es ici et tu viens de réaliser à l'écoute de ce message, ou peut-être que tu le savais déjà, que tu es face, tu choisis les limitations au lieu de choisir de regarder au potentiel que Dieu a mis en toi, au potentiel du Dieu Tout-Puissant. Alors, juste prendre le temps que le Saint-Esprit, peut-être tu es ici, tu dis, Stéphanie, c'est moi, je veux choisir, je ne veux plus regarder à ces limitations extérieures ou à mes limitations intérieures. Alors, juste là où tu es, il n'y a pas de jugement à l'Église et je ne ferai pas d'appel en avant. C'est juste là de s'arrêter comme un signe d'obéissance à Dieu et de demander à Dieu, c'est moi ça, Stéphanie. J'ai des limitations que je veux choisir de ne plus regarder à celles-ci. Alors, là où tu es, lève la main bien haut. Il n'y a pas de jugement. Ici, c'est un lieu de refuge, l'Église. C'est un lieu où on vient à l'Église. On est tellement occupé, non pas pour jouer à l'Église, mais pour que Dieu vienne nous toucher. Et je crois sincèrement que dans ce lieu, juste par signe d'abandon, en levant ta main, c'est comme si tu dis au Seigneur, moi, je suis prête. Maintenant, j'ai besoin de ta puissance, de ton Saint-Esprit. Je ne veux plus regarder à mes limitations externes ou intérieures. Lève-la bien haute. Plein de gens dans ce lieu. Laisse juste là, comme cette femme à la perte de sang. Elle a levé la main en touchant Jésus. Tu touches Jésus en ce moment, dans ton esprit. Peut-être que tu es ici aussi et ce sera peut-être ta deuxième main que tu vas lever. Tu es face comme cette grosse roche-là, ce gros caillou-là, ce défi qui est devant toi. Et tu as besoin que Dieu vienne te redonner la foi, peut-être l'espoir de croire, tu le sais intellectuellement, mais de croire à nouveau que Dieu est capable de frayer un nouveau chemin, que Dieu est capable de faire sortir de l'eau une source de vie, de peu importe ta situation qui semble morte. Alors là où tu élèves ta main aussi, juste dire, Seigneur, c'est moi. Je réponds, je veux par obéissance. Je veux que tu viennes agir dans ma vie. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Je lève ma main aussi pour ma propre vie. Seigneur, je viens devant toi. Je viens devant toi, Seigneur, plaider ensemble, Seigneur. Je me tiens à la brèche pour ces hommes et ces femmes, Seigneur. Nous sommes presque 100% devant toi, te disant, Seigneur, premièrement, enlève les limitations de nos vies. Seigneur, nous voulons ce matin choisir au potentiel que tu as mis en nous. Je prie ce matin que tu viennes briser, Seigneur, des malédictions de génération en génération, Seigneur. Je prie que par ton Saint-Esprit, du devant de la salle jusqu'à l'arrière de chaque côté, Saint-Esprit souffle sur les cœurs en ce moment. Seigneur, que des fardeaux puissent tomber. Seigneur, que la foi, tu donnes le don de la foi en ce moment, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour des obstacles sur le chemin. Seigneur, quelqu'un dans ce lieu a besoin de saisir que tu es le même et qu'il n'y a rien d'impossible à toi. Seigneur, tu es le Dieu de toute possibilité. Seigneur, tu es celui qui guérit. Je veux te prier pour la guérison en ce moment. Guérison physique, guérison émotionnelle, guérison spirituelle. Tu souffles par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit Jésus. Jésus, tu nous as donné cette puissance. Viens, Seigneur, viens restaurer des mariages dans ce lieu. Viens, Seigneur, prendre soin des familles, des femmes monoparentales, des parents, Seigneur Jésus. Je viens plaider, Seigneur. Tu ramènes des enfants qui se sont éloignés. Tu les ramènes à la maison. Seigneur, souffle. Souffle, Seigneur, au point de vue financier. J'ai prié à la première réunion, mais aussi à la deuxième. Quelqu'un, tu es face à des défis financiers. Et Dieu te dit, ne crains rien. Je vais pourvoir. Choisis, fais les bons choix. Je vais pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Seigneur Jésus, je prie pour des rêves dans ce lieu. Je prie pour des rêves dans ce lieu. Tu as déposé des rêves dans le cœur de personnes dans ce lieu. Et ces rêves, Seigneur, étaient comme enfouis. Seigneur, aujourd'hui, tu fais renaître des rêves. Seigneur, certains, tu les appelles à aller plus loin avec toi. Tu appelles certains à faire des pas de foi. Seigneur, je sais que tu vas t'élever dans ce lieu. Des hommes, des femmes qui vont influencer. Et qu'aujourd'hui, les limitations tombent dans le nom de Jésus. Les limitations tombent dans le nom de Jésus. parce que Seigneur, tu te cherches un peuple qui brille dans un monde de ténèbres. Seigneur, je te prie pour cette église, Seigneur, premièrement pour les besoins de mes frères et sœurs, que personne ne puisse retourner, Seigneur, sans que ta parole a fait son effet, Seigneur, qu'ils puissent ressentir le Saint-Esprit de la tête aux pieds, Seigneur. Tu prends, Seigneur, tu mets tes bras d'amour autour de chaque homme, chaque femme dans ce lieu, qu'ils ressentent ta présence. Mais Seigneur, je te prie pour cette église. Je te prie pour toute l'équipe pastorale. Je te prie pour chaque homme, chaque femme, que nous puissions être ces lumières, Seigneur. Je prie que nous puissions, à Pâques, Seigneur, proclamer ton nom, inviter quelqu'un, proclamer le plus puissant des messages. Aide-nous à oser parler de toi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour un réveil dans ce lieu, Seigneur. Que ton évangile puisse être prêché autour, Seigneur. Que des vies puissent être restaurées, Seigneur, à Drummondville. Que nous puissions être cette eau qui sort du rocher, Seigneur. Ces témoignages de foi et de vie. Seigneur, je te dis, sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Je te prie pour Pâques, pour un moment divin, Seigneur. Parce que nous célébrons ta puissance, alors manifeste ta puissance. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen et Amen.